Oh,
Sauce
le
A.
on n'a pas le tableau, nous.
Vous n'avez pas le tableau?
Man, on n'a pas sur l'eau. Voyons là.
OK. Je vais dire, je vais te suivre.
Alors, là, on parle du patrimoine, oui. L'inventaire du patrimoine immobilier.
Est-ce que j'y allais, Daniel? Tu veux t'y aller?
En fait, c'est un chantier que le gouvernement impose à chaque MRC de faire, de recenser dans tout leur territoire des bâtiments d'avant 1940 qui mériteraient une protection parce que c'est des bâtiments historiques. Alors, le gouvernement donne une subvention de 50 000 $ puis pour avoir la subvention de 50 000, il faut que la MRC mette 3 000.
C'est pas mal.
C'est C'est oui, c'est ça.
Puis, c'est ça, on a trois phases dans ce projet-là.
Et
ils
on
ont annoncé la phase 1 en nous disant qu'on avait la possibilité d'aller chercher 50 000. On s'attend donc à ce qu'il y ait des budgets de rattachés à chacune des phases parce que c'est dans les changements de la nouvelle loi sur le patrimoine culturel, c'est devenu une obligation avec les modifications à la loi. Donc, chacune des MRC se doit maintenant de se doter d'un inventaire patrimonial.
Ça va faire par chacune des MRC ou par chacune des municipalités?
Non, c'est l'inventaire de la MRC. Ce n'est pas chacune des municipalités qui doit se doter de l'inventaire, c'est la MRC qui doit le faire. Et c'est ça, Daniel, au niveau d'urbanisme et moi au niveau culturel, on travaille ça ensemble, mais il y a des phases qui vont être faites internes, des phases qui vont être faites avec des consultants externes aussi.
C'est bon, merci.
Mais on va le faire pour vous autres.
Oui.
C'est bon.
Alors, ça va? Est-ce que j'ai une proposition pour l'inventaire? Ben, oui.
Question. On n'avait pas réservé 75 000 pièces dans l'enveloppe du patrimoine, là?
Oui, Daniel.
Et pourquoi là, on va le chercher? Pourquoi on va chercher 3 000 là-dedans quand on a réservé 75 000 pour faire justement ça dans l'autre enveloppe, là?
Comment expliquer ça facilement?
Comment expliquer ça,
ouais? Oui.
Non, il y a une explication, Daniel.
Parce que toi, tu as des informations d'avance sur d'autres, parce que je vous ramène un peu en arrière.
Information d'avance, ça a été dit au conseil qu'on réservait 75 000.
Non, mais c'est parce que tu connais l'enveloppe. C'est que la MRC a eu la possibilité d'aller chercher une enveloppe pour soutenir le patrimoine immobilier de propriété municipale. Oui. Sur notre territoire, on avait très peu de bâtiments qui correspondaient à cette enveloppe-là. On est allé de l'avant, on a été chercher un financement de 450 000 $ du ministère de la Culture. Et on est allé chercher ça, et dans cette enveloppe-là, on avait la possibilité d'inscrire un inventaire patrimonial. On a tout fait ça. Le ministère de la Culture est arrivé en disant « By the way, on vous demanderait de faire un pré-inventaire et on va vous donner 50 000 pour le faire. » Donc, nous, en tant qu'MRC, on était chanceuses d'avoir été chercher cette enveloppe-là en patrimoine immobilier et d'inscrire notre inventaire dedans. Mais il y a plusieurs municipalités, MRC à travers le Québec qui ont dit « Oh, oh, c'est devenu une obligation, mais on a zéro budget pour le faire. » Donc, le ministère de la Culture a rendu disponible des sommes pour que chacune des MRC puisse se doter d'abord d'un pré-inventaire, ensuite d'un inventaire. Ce qui veut dire que le 75 000, ça se peut qu'il soit libéré.
Ça veut dire que ça va aller à les deux...
Les deux propriétés, oui.
Les deux propriétés qui sont actuellement dans l'entente en patrimoine immobilier de propriété municipale. Voilà. Fait qu'on était prêts à déposer, puis le ministère est arrivé en disant, on demande un prix inventaire.
Parce qu'on a eu 450 000 et la MRC avait dit qu'elle mettait 300 000. Fait qu'on a 750 000 dans ce fonds-là. Oui. Sur le 750 000, on avait réservé 75 000 piastres pour faire ça. On fera plus d'argent.
Sur les 750 000, il nous coûte 78 000.
OK.
C'est une bonne. On était prévoyants, on avait réservé de l'argent, ils nous en ont donné d'autres. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Moi, je pense.
C'est de l'argent. À part densification patrimoine, c'est aussi un mot qu'on va entendre beaucoup dans la prochaine campagne électorale. Alors, mais je pense que les enveloppes passent, on a de l'ouvrage à faire, on lèvera pas le nez sur les enveloppes qui passent. On va aller chercher le maximum. Parce que ce que ça libère de l'autre enveloppe permettra ben oui. peut-être de faire plus pour les propriétés de les édifices de propriété municipale déjà.
Alors, une question?
Oui,
est-ce
Pierre?
Est-ce que ce programme-là, les municipalités peuvent directement appliquer au gouvernement ces programmes-là? Mais non, si les municipalités appliquent la MRC.
Lequel? Celui du pré-inventaire, c'est les MRC. L'autre programme pour les édifices patrimoniaux, ça pourrait être les municipalités directement?
Ça pourrait, mais si la MRC décide de présenter, elle est priorisée versus les municipalités sur un territoire. C'est l'angle qu'on avait pris quand on avait déposé la première, quand on avait déposé, là, quand on a obtenu en 2021.
Et là, ça se pourrait qu'on dépose une deuxième fois à Pierre.
Vous pouvez aussi présenter un ou deux bâtiments, parce que ça peut être le même bâtiment que vous parlez. Là.
Non, c'est minimum deux bâtiments par entente qui doivent être enregistrés.
Mais là, il y en aura peut-être deux.
Oui.
Fait que?
Ben, à 6%. Pour les empoisser de l'argent.
Donc, à qui il faut débattre son ville?
Notre rencontre est le 3 juin, Pierre.
Un projet qu'elle m'a présenté.
C'est ça.
Si on peut donner assez d'informations pour prendre dans
vos... Mais c'est ça.
Ben, ce qui arrive, c'est
que... On ne fera pas la discussion ce soir parce qu'on va se rencontrer. Pierre, si tu viens, on a pris un rendez-vous spécifiquement pour ça.
Non,
c'est le 2 juin. Le 2 juin,
c'est bon.
Puis nous, on va donner toute l'information pour ne pas retarder ce soir, là. On va donner toute l'information parce que c'est possible qu'il y ait une c'est même très possible qu'il y ait une belle ouverture pour ça, là.
Merci.
Fait que le 2 juin, on répond direct à ta question avec vraiment tout en détail. Mais pour ce soir, est-ce que vous êtes d'accord pour accorder 3 000 $ pour
334, je pense.
3 334 et 34. Vincent Gingras, merci. Appuyé de Lynn, merci. Lynn H. Ça va pour tout le monde? Alors, oui, on est rendu au
club VTT.
Secteur Belle-Terre.
Oui, donc toujours projet présenté au volet 2, projets spéciaux par le club VTT du Témiscamingue. Donc, réfection d'une portion dangereuse de sentier, on parle du secteur de Belle-Terre. Donc, c'est de refaire la surface de roulement sur 35,2 km sur un sentier total de 39,2 km. C'est la mise en forme de sentier, donc on parle vraiment de construction, mais juste sur un tronçon de 3,85 km pour assurer la durabilité de la surface de roulement. Le sentier est localisé entre La Tulipe et Belle-Terre et ça permet l'interconnexion avec Val-d'Or. C'est un sentier qui serait partagé avec au niveau estival avec les motoneiges en session hivernale. Et c'est une bretelle qui permettrait de faire le tour de l'Abitibi-Témiscamingue sans revenir sur ses pas. Donc, la demande est de 13 237 sur un coût total de projet de 143 717. Le financement est complété par le MTQ pour 66 %, le 94 550, l'Association des quads de l'Abitibi-Témiscamingue à 1 890, le club VTT en lui-même pour 15 000. Et il y a un manque à gagner de 19 040 au dossier. Il y avait comme une sous-demande adressée directement à la MRC, mais au niveau de la recommandation du comité du GAM, on a traité que ce qui s'adressait au volet 2, donc le 13 237. On a noté que c'est un projet d'envergure, étant donné l'interconnexion avec l'Abitibi-Témiscamingue par Val-d'Or, et aussi bien, envergure par les investissements qui redescendent ici sur le territoire là, par le MTQ de 94 550. J'ai mis 1 000 de trop là, dans votre tableau. On a noté aussi que c'est un financement complémentaire au projet, étant donné qu'il y a un apport financier du MTQ, parce que la mission première du FRR, ce n'est pas de soutenir les chemins, mais quand on y va en financement complémentaire, ça devient possible. Donc, on a noté aussi que les travaux vont assurer la pérennité des infrastructures, les impacts au niveau touristique en termes d'achalandage, de retombées économiques, puisque ça permet de faire une boucle vers l'Abitibi-Témiscamingue, et aussi la nouveauté qui est le tronçon de 3,85 km. Donc, face à tout ça, on vous recommande le soutien à 13 237.
Questions, commentaires? Proposeurs? Jocelyn et Richard Robert? Ça va pour tout le monde? Alors, on aurait terminé de distribuer les fonds du Fonds Région Ruralité. Merci beaucoup, Véronique.
De rien.
Alors, quand je parlais qu'on avait un bon comité, on a aussi une très bonne agente de comité.
Je ne donne pas des cadeaux gratuitement, par exemple. Je suis quand même sévère dans mes analyses. Mais c'est ça, quand les dossiers sont méritants, mais c'est ça, le comité, on est enclin à tout ça. Merci.
Merci beaucoup. Alors, on passe donc au point 9, présentation d'une demande de subvention pour la réalisation d'un plan d'intervention en infrastructure routière locale. Daniel Dufault.
Vous l'avez discuté à la dernière réunion, ça a été discuté aussi avec les DG des municipalités à l'effet de faire l'inventaire sur les routes municipales des travaux qui sont à faire finalement. Alors, c'est un projet qui est financé à 100% par le ministère des Transports. La première étape, ça va être d'engager un consultant pour qui fasse l'inventaire, justement, des travaux à faire. Puis pour présenter la demande, ben, ça prend une résolution de la MRC. C'est pour ça que c'est à l'ordre du jour.
Alors, est-ce que vous avez... Oui, Isabelle Coderre s'est appuyée de... Oui. Oui, Richard, ça va.
Ben, Lynn, elle voulait que je me mette du vaccin.
Est-ce que quelqu'un est contre?
Je réponds.
C'est ce que je pensais.
Mais sinon, on va lui roser dehors.
Comme tu?
Non. Alors, on passe à pénurie de main-d'œuvre. De rentrer dans pénurie d'élus. Pénurie de main-d'œuvre, Lynn, adhésion à l'offre de service du CLD de Rouyn pour un recrutement à l'international.
Oui, le CLD de Rouyn-Noranda nous a fait une présentation MRC, aux directions de la MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Et il y a 4 MRC de la région qui seraient intéressés, ben, trois autres MRC, sauf la MRC de Vallée-de-l'Or parce qu'ils ont développé leur propre expertise. Donc, ce serait d'appuyer la démarche du CLD de Rouyn qui vont offrir des services au niveau du recrutement international. C'est très, très difficile, c'est très légal, c'est lourd comme procédure. Donc, d'adhérer à leurs services, ça va permettre d'avoir des présentations, des ateliers de travail, puis éventuellement, bien, ils vont offrir des services à la carte. Donc, il n'y a pas d'engagement financier à ce stade-ci, à moins qu'on retiendra à un moment donné des services ou bien une entreprise comme Témisco qui aurait besoin d'un appui pourrait se tourner vers le CLD de Rouyn, le fait que la MRC soit dans le package deal là, qu'on appelle. Là. Fait que donc, ce soir, ce serait justement d'appuyer la démarche du CLD de Rouyn et d'adhérer au projet du CLD.
Est-ce que ça vous convient? Alors, je recevrai une proposition. Lynn H., Marco dénommé. Ça va pour tout le monde? Alors, on passe à Daniel, encore une fois. Transmission du plan régional des milieux humides et hydriques. Je vous rappelle que depuis le mois de décembre-janvier, on a une chronique dans chacune de nos infolettes qui portait sur le plan des milieux humides et hydriques. Et ça a été, pour ma part, très instructif. Daniel?
Et le document est en consultation dans les municipalités depuis septembre 2020. C'est un projet qui a commencé en 2018. Le ministère a donné 83 000 $ à la MRC pour faire ce document-là. Alors, le projet s'est autofinancé. Il n'y a pas eu de dépassement de coûts. Alors, on est rendu à l'étape, si vous le désirez, d'envoyer le document au ministère de l'Environnement parce que... La date limite, c'est le 16 juin. Alors, en plus du budget, si vous acceptez, l'échéancier va être respecté.
Question, commentaire pour Daniel? Sinon, je recevrai une proposition.
Qui vérifie ça? C'est encore là, c'est respecté, ces zones humides-là. Là. Ben, il y en a dans la Vallée-Randillée, là, puis en tout cas... T'as des secteurs qui étaient censés être réservés pour ça, puis on s'aperçoit que c'est utilisé à bien d'autres fins que ça. Là.
Le plan qui est dans l'ordre du jour, c'est d'identifier ceux qui doivent être protégés. Le ministère de l'Environnement, lui, sa responsabilité, il a toute la carte des milieux humides, puis c'est de voir quand il y a des milieux humides qui sont détruits, de faire payer la personne ou l'entreprise qui veut l'utiliser, ça, c'est la responsabilité du ministère de l'Environnement au niveau du respect.
Parce que, Daniel, les terrains qui sont identifiés là-dedans, puis Daniel précisait que c'est tous des terrains municipaux, il n'y a pas de terrain privé. Fait que dans les municipalités, si les terrains sont détruits, le ministère de l'Environnement viendra voir qui a fait la destruction.
Ah, mais il y a des terrains agricoles là-dedans, là, c'est... Ils occupent 5 % des terrains privés. Bien, dans 5 % des terres privées, là, c'est... Il y en a certains, des milieux humides, là.
Oui,
parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des places que c'est des milieux humides, c'est des terrains privés, où c'est que les gens ont demandé des dérogations, ça a été refusé. Puis, les gens vont quand même soit ramasser la terre noire qu'il y a dedans, puis en tout cas faire des trouées un peu partout, puis il n'y a jamais rien.
C'est des entreprises agricoles, Daniel, c'est la responsabilité, c'est le centre de contrôle environnemental qui fait les suivis.
Les suivis, OK.
Oui, l'inspection pour les entreprises agricoles. Pour un particulier, c'est la municipalité, mais pour les entreprises agricoles, c'est le CCT, centre de contrôle environnemental, CCEQ. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour Jocelyn Cardinal? C'est appuyé de Martin Lefebvre. Merci, Martin.
Ah, je veux juste souligner là, que le travail remarquable que Daniel a fait dans ce mandat-là, parce que c'était quand même un gros mandat. Ben, il y avait des merci. C'était ça lourd, là. Et qu'il en a fait une bonne partie à l'interne. Fait que merci, Daniel, d'avoir piloté ce dossier-là.
C'est, je peux vous dire, un, Daniel Dufault n'a pas le droit de prendre sa retraite avant que je prenne la mienne. Deux, effectivement, on a une ressource, et c'est le fun de le dire publiquement, on a une ressource en urbanisme et en aménagement du territoire qui a une expertise qui devient unique au Québec. Il est sollicité par la FQM, il est sollicité par les autres MRC de la région aussi. Ben, oui, c'est devenu...
Pas trop le prêter.
Pas trop le prêter, OK, c'est correct, parce que oui, il y a une expertise qui est assez unique. Alors, merci, Lynn, de
vous le garder.
Et merci, Daniel, de ton travail. Donc, ça va pour tout le monde. On a adopté le plan régional et on va le faire parvenir au ministère qui vont tout virer ça à l'envers. Bon, et c'est enregistré. Avis de motion et dépôt, règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des membres élus du comité municipal de la Nielle. Patricia, tu donnes l'information?
Bien, c'est tout simplement, comme dans toutes les municipalités, vous avez des codes d'éthique pour vos membres élus, puis vous en avez un autre pour vos employés. Donc, nous, on a la même chose, mais étant donné qu'on a un TNO, nos codes d'éthique, donc, ils doivent être adoptés par la MRC et c'est ce qu'on...
C'est ce que vous soumettez maintenant? Donc, quelqu'un donne avis de motion? Vous êtes 13. Que ce soit Patricia. OK. Patricia donne avis de motion. Parfait.
On le refuse-tu ou quoi?
Pas de faire ça. Je n'ai pas le droit de voter, mais j'ai le droit de donner avis de motion.
Oui. Puis, Luc, la prochaine réunion, on va adopter.
Oh, OK. On y a repensé.
OK. Ça n'en prend... On a le point 12, dans le fond, qui est le code pour les élus, puis on a le point 13, dans le fond, qui est le code aussi pour
les employés.
Donc, ça prend deux
avis de motion.
Motion.
Alors, Patricia, tu fais donc le point 13, avis de motion, pour les employés également.
Oui, donc, oui, ça va.
Ça va pour tout le monde?
On a un mot pour y passer.
Peut-être accepter les employés, mais...
Alors, on voit qu'il y a une belle solidarité, hein,
parce que je la sens.
Ouais, c'est cela, tu le sens fort, oui, c'est ça.
Tu de l'amour.
Oh, attendez une minute, là.
Alors, Samy, on passe au code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC.
Les membres du conseil sont invités ce soir à se prononcer quant à l'adoption du règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC, sachant que toutes les formalités prévues par la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale ont été respectées et aucune modification au projet du règlement déposé avec l'avis de mention lors de la séance du 20 avril.
Alors, on procède donc à l'adoption du règlement. C'est proposé par Isabelle. C'est appuyé de Luc. Ça te tente, Luc? Merci.
Les employés qui nous restent, ils vont pas mal. Peut-être moins long.
Quand on regarde les offres d'emploi, c'est quand même
intéressant. Alors, vous avez compris que pas mal tout le monde à la MRC travaille à plus que temps plein. Je disais ça de Lynn et moi tantôt, mais je regarde de l'autre côté, là, c'est assez généralisé, je peux vous dire. Il y a du jus de... Il y a de l'énergie qui se déploie à la MRC. Donc, encore, Samy, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection.
Oui, en fait, il s'agit de demander l'autorisation du conseil afin de créer un fonds réservé à l'élection de la préfecture conformément à la modification à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Donc, il s'agit d'une première étape. Lors d'une séance ultérieure, une autre résolution sera déposée au conseil afin d'autoriser de fixer les montants qui doivent être affectés annuellement à ce fonds.
Vous le faites déjà, mais là, il faut le formaliser à travers une procédure plus...
On le faisait dans le budget. Depuis 2009, ça se fait directement dans le budget, mais là, c'est maintenant dans la loi. Alors, proposeur, Pierre Gingras, Lynn H. Merci beaucoup. On passe donc au point 16, soutien à la vitalisation, signature de l'entente de vitalisation chez vous.
Comme vous savez, sur le territoire, nous avons 5 municipalités et la communauté de Kebawek qui vont entreprendre en fait une démarche à la vitalisation. Et c'est dans le cadre du Fonds Région Ruralité à son volet 4 qui soutient la vitalisation. Donc aujourd'hui, nous demandons à ce que vous aidez Madame Claire Bolduc à signer l'entente avec le MAMH pour le, au nom de la MRC en fait.
Ça vous va? Vincent? Vincent et Alexandre, j'imagine?
Oui.
Vincent Gingras. Alexandre, c'est bon, parfait. Ça va pour tout le monde? Alors, on passe à tourisme et promotion du territoire chez vous.
En fait, là, c'est depuis 3 ans, en fait, la MRC met en place un support ou une subvention, accorde une subvention aux citoyens du Témiscamingue à l'accès au parc au Pemikan en les offrant en fait un rabais à hauteur de 50% pour une entrée journalière et à 25% pour l'acquisition d'une carte annuelle au parc au Pemikan. Donc l'idée c'est de autoriser en fait Madame Bolduc à signer une entente avec la CEPAC jusqu'à concurrence de 5 000 $ en fait, et aussi un livret rabais à hauteur de 3 000 $, des montants à hauteur de 3 000 $ offrant 50% de rabais dans les 10 sites du mémoire des chemins des eaux qui se trouvent sur le territoire.
Vous vous souvenez que c'est les ententes qu'on avait déjà accordées, est-ce que ça vous convient? On les avait inscrits au budget, ça va pour tout le monde? Alexandre, appuyé de Luc.
Mais là, on a de la compétition, là.
Oui, on a tous vu ça.
C'est une compétition, là. Ça va être gratis pour l'ensemble du Québec, là. Parce que...
Bien, écoute, on a inspiré une belle action, là. Oui, Isabelle?
Je me trompe, mais j'avais dans la tête que Rimini était dans la municipalité pour la vitalisation de Pointe-Sainte.
Oui, Edda.
Oui.
Et je ne le vois plus dans les résolutions, Rimini.
En fait... par rapport à ça, si j'avais pas reçu la résolution de Rémini lorsqu'on avait fait le projet de résolution, mais là je l'ai reçu. Exactement. Je l'ai reçu hier.
En assurer
pour... Est-ce que on corrigera la résolution pour on va la corriger, Isabelle. On va t'inscrire, Isabelle. Donc, merci tout le monde. Donc, sécurité incendie. Lynn, système de communication sécurité incendie.
Oui, à la séance du mois de mars, vous aviez autorisé service consul, flex consul, à poursuivre son mandat pour produire le devis. Ce qu'il a fait, il a reconsulté les services incendie pour s'assurer que le tableau qu'il vous avait présenté là, en termes d'équipement, de normes, était toujours bon, donc il y a eu quelques ajustements, sauf qu'il y a un service incendie qui a augmenté ses équipements radio de 40 %. Si vous vous rappelez, quand vous aviez donné le go dans ce dossier-là, vous aviez dit que ça serait financé en grande partie par l'enveloppe de la COVID. Ce que M. Aubé de Flex Consul me mentionnait, c'est le fait d'ajuster les équipements radio, puis c'est pas ça qu'on remet en question, mais ça va augmenter le prix budgétaire jusqu'à 50 000 $. Fait que je voulais vous informer, puis qu'on réitère comment est-ce qu'il va se faire la répartition des coûts qui va découler quand on va octroyer le mandat. Est-ce qu'on maintient le cap sur l'enveloppe de la COVID?
Ouais.
Hey, c'était cette enveloppe-là qui avait été ciblée. Là, Yoline, tu as une question? Marco, tu as une question?
Est-ce que c'est le 40% d'augmentation de...
C'est, je ne remets pas en question les besoins. Chaque service incendie a identifié leurs besoins.
Ça donne 40%.
Ça donne 40% de plus. Marco?
Oui, j'ai une proposition à faire. Là, on change tous les systèmes. J'aurais comme proposition qu'on paye juste les systèmes. Un radio contre un radio. Toutes les brigades fonctionnaient avant qu'on sorte ce programme-là. Là. On dirait qu'il y en a qui veulent en profiter, mais tu peux les autres. Qui en veut plus, ils paieront. Ça, c'est ce que la proposition. Sinon.
La discussion ouverte, là.
Parce que tout. Parce qu'avant qu'on sorte ce système-là, tout le monde fonctionnait avec les radios qu'il y avait, puis là, hop. Là, vu qu'on offre de payer, là, il y en a qui. C'est sûr que s'ils en prennent un ou deux de plus, c'est pas pris, mais c'est 40%, c'est quasiment plus que la moitié. Là.
C'est énorme, mais est-ce qu'on pourrait dire que l'augmentation peut être acceptable globalement de 10%? C'est généralement un chiffre acceptable. 40%, c'est, effectivement, ça m'apparaît important. Fait que, est-ce qu'on pourrait dire que l'augmentation, nous autres, on l'accepte à hauteur de 10%?
10%
de tout
un ou deux radios de plus.
Oui, par brigade, mais le reste sera aux frais de la brigade qui... Daniel?
Les besoins avaient été demandés au départ à chacune des brigades.
Fait. L'inventaire, il avait demandé ce qu'il y avait comme. Puis tout le monde fonctionnait avec ce
qu'il y avait. Oui. Vu qu'on a dit qu'on prenait ça sur un budget COVID, là, tout le monde a augmenté. Les besoins ont tombé énormes à chacune des brigades, en tout cas dans certaines brigades.
Ouais. Luc?
En tout cas, à moins, j'ai pas de mémoire, là. Puis pourtant, c'est peut-être une patente curée. Là. On a pris la décision la dernière fois de dire que, oui, on prenait l'essai à COVID. Et c'était le monde. Ils ont été consultés à l'avance. Moi, je pense que 2%, 3% ou 10%, je suis pas d'accord avec ça. On l'a voté là-dessus, on les a engagés pour faire ça, puis la job était bien faite, on était tous d'accord avec ce job-là. Fait que si les brigades en veulent plus, ils iront voir le conseil municipal. Ou ils auront ouais 6-7 conseils municipaux dans le col de Résite. Mais c'était correct la job qu'on avait faite. On la prenait sur la cause COVID. Puis en plus, on l'avait pris quand même assez un bon montant, c'est 500
000. 550 000?
J'en ai pas gros de mémoire. Mais...
Le prix budgétaire, lors de la présentation, était autour de 500
000. Ouais. Là, il y a
520
000. Ouais. Évitons le 40% de plus. On pouvait attendre une petite augmentation à cause des délais. Puis, vous savez, le prix du gaz, ils vont bien dire le prix du gaz. Mais on avait pris cette décision-là. On en a reparlé la dernière réunion. On avait dit qu'on maintenait notre décision. On va la maintenir. Point. Moi, avec bien ça, me faire faire la soirée en fait et me faire pousser dans la cause.
Donc, ce soir, le signal ou la décision qu'on doit rendre, c'est que le budget qui avait été établi, c'est le même. Des brigades qui en veulent plus devront assumer le prix. Daniel.
Mais qu'est-ce qu'il dit notre consultant sur cette demande-là, là, supplémentaire?
Lui, il la revalidait.
Il doit formuler des commentaires là, quand il a vu qu'une brigade a demandé 40% de plus de radio. C'est lui, les commentaires, Lynn, ou...
La première fois, il y avait...
Ce qu'il a mentionné, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi autant de radios, mais que sa job, ce n'était pas de remettre en question les besoins identifiés par les brigades.
Non, mais il a pas fait une consultation rien que pour nous autres, tu sais, au Témiscamingue. Il en a fait ailleurs, un peu partout. Là. Qu'est-ce qu'il disait, les autres brigades prenaient-elles autant de...
Non.
Bon.
Et si je peux renchérir, Daniel, là, si je serais le consultant, politiquement, je dirais à peu près la même réponse que tu as donnée, parce que plus payant d'en vendre 40% de plus.
Oui, mais c'est pas le cas.
Attendez, il y a des gens qui ont levé la main aussi. Là. On va faire la discussion à deux. Mario Drouin.
Pourquoi c'est plus tant de radio que ça? Parce que quand on parle avec les chefs d'incendie, les chefs pompiers, les forces équipes, quand il y a un feu, on n'est pas capable d'avoir de monde, on a ramassé le monde. Pourquoi le safran? De radio comme ça.
OK, il y avait Jocelyn.
Une fois, quand vous avez présenté ça, le monsieur, il parlait que dans sa soumission, il fournissait 144 radios. Là, je ne sais pas si c'est 40% de plus que ça, mais la présentation qu'il nous a faite, là, il parlait de 144 radios.
fait beaucoup, hein?
Ben,
c'est pas 40% sur les 144 radios. C'est un service incendie qui a demandé une majoration.
Si, on ne peut pas le nommer.
Si tu as 144 pompiers, tu en arrives assez juste à un par pompier.
Alors, votre position, c'est qu'on maintient le cap sur ce qui avait été déterminé.
Pas moi, 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 c'est la mienne. Ça, c'est sûr.
Alors, Luc Lalonde.
Je propose.
C'est pas toi.
C'est appuyé de Lynn H. Et c'est appuyé de tout le monde, je pense. Ça va bien, parfait. Deuxième point sur la sécurité incendie. Marco, la parole est à toi, comité de sécurité incendie.
On avait parlé de la caucus parce que si on suit la résolution qui a été faite pour la composition du comité de service incendie, il y a un membre qui est dessus qui n'a pas d'affaires là parce que c'est écrit que c'est le directeur de la résite qui devrait être là, puis celui qui est là présentement, c'est pas le directeur. On garde celle-là et on envoie une lettre à Reddit pour leur dire que c'est vraiment leur directeur et non pas quelqu'un qui n'est pas directeur.
Alors, qu'on respecte la composition prévue du comité. Donc, est-ce que ça prend une résolution pour ça?
Martin,
tu avais une question?
Oui, ben, ma question, c'est quoi la réalité des autres? Là, je ne veux pas le règlement avec moi, mais c'est quoi la réalité dans les autres milieux, là, le secteur nord, sud, par rapport au comité?
Peux-tu décrire, peux-tu donner la composition complète du comité?
C'est le directeur partout, ben, c'est les pompiers, c'est qui? C'est quoi?
Et
non, il n'y a pas de directeur ici. Bon, ben, si ce n'est pas les directeurs, moi, ce que je propose, là, c'est que ce soit des pompiers comme tout le monde. Fait que comme ça, là, moi, je parlais un peu avec Yves Bergeron.
Bon, on a des directeurs, il y a des directeurs, mais il y a des pompiers. Tout.
Bon, ben moi, ce que je dis, c'est que...
que ce soit la même chose.
C'est que ce soit un pompier. Moi, je suis qui pour dire au secteur de Témiscamingue qu'il peut avoir, mettez le directeur, ou mettez... Moi, en autant que ce soit un pompier, là, ben la caserne, ou en tout cas, avec les filles
du front... Là, on va avoir un problème, là. On va tout falloir refaire le comité, parce qu'à Reddit, il y a un membre du CA, puis il y a le directeur des services... Le CA, je ne sais pas s'il est pompier, le monsieur, je ne sais pas c'est qui.
Là, la question, c'est que dans la composition du comité, la Reddit a, c'est nommé qui est membre du comité.
Ouais, c'est ça, c'est supposé être le directeur, puis là, ce n'est pas le directeur qui est dessus.
C'est nommé que c'est le directeur de la Reddit qui est sur le comité de sécurité.
Est-ce que je peux renchérir là-dessus?
Président, Nico?
Bon, ben, moi, j'ai eu la demande du directeur de la Reddit, qui est Richard Plot, qui ne veut pas être sur le comité, qui veut que ce soit un pompier.
Il va faire
un pompier. Pompier.
Mettons ça que ce soit un pompier.
Alors, on va modifier la composition du comité.
Que
ce soit un pompier.
Un pompier de la Reddit.
Ben oui. D'abord, que c'est un pompier qui peut venir du secteur nord ou du secteur est. Ou... Fait que ce soit le directeur ou un pompier, ça semble être des pompiers. Fait que moi, ce que je me dis, c'est que pour la Reddit, ça semble être pas.
Mais c'est parce qu'on avait fait, déjà, on disait que la composition devait être faite de telle façon. On voulait avoir 4 élus du conseil de la MRC qui représentent chacun des secteurs. Après ça, on voulait avoir 4 pompiers qui représentaient...
Soit
un représentant par secteur, dont celui du centre, là. 2 représentants de la Reddit. Là, le problème, là, c'est que c'est les 2 représentants de la Reddit, ce qu'on disait, c'était un administrateur élu au conseil d'administration puis le directeur de service. Mais aujourd'hui, le directeur de service, Nico, dit qu'il ne veut pas y aller. Ça fait que lui a délégué quelqu'un d'autre. Mais c'est...
Il est en faveur. C'est un pompier.
Là, ce qu'on... Ce que...
Comme les autres, là, comme le service incendie du secteur nord.
Ça pourrait être un pompier.
C'est pas le chef pompier, c'est un pompier.
Ça sera un pompier, puis ça sera plus Richard Lafaire, fait que tout le monde va être heureux.
Bon, ouais. En fait, c'est ce que Marco veut, c'est sortir quelqu'un qui n'a pas nommé, mais en tout cas, on s'en doute.
Ouais, je ne suis pas du seul qui a fait ça demander. Il y a des pompiers qui...
Non, attends, là, on dépersonnalise, s'il vous plaît. Je vous rappelle que...
pas nommé personne.
Mais c'est pour ça qu'on en parle, parce
que... Exactement. Il y a un enjeu et il y a une représentation qu'on estime être un peu... Alors, dans ce contexte-là... La composition du comité prévoyait le directeur de service. Le directeur de service n'est pas là. Et ce que le directeur de service nous recommande, c'est que ce soit un pompier. Dans ce cas-là, est-ce qu'on prend une résolution d'accepter que ce soit un pompier de plus qui siège au niveau de notre comité sécurité incendie?
En formant la formation, en formant notre...
En modifiant la composition du comité. Ça revient au conseil de modifier la composition du comité et par conséquent de dire « nommer un pompier ». À ce moment-là, la RISIT nommera un pompier.
Parce que je voudrais modifier la résolution 01-18-029
sur la composition du comité de sécurité incendie. C'est proposé par Nico Gervais.
Oui, mais là.
C'est appuyé par Roger Boutier. Non, tu voulais une question, excuse-moi. Vas-y, Roger.
Je ne connais pas très bien tout ça, mais la RISIT, pourquoi c'est pas considéré comme un autre corps de pompier?
Parce que c'était plus qu'une. C'était un plus gros service regroupé.
Ça représente plusieurs municipalités. Oh.
La question que tu poses, Luc Turcotte, non, il n'est pas pompier, mais dans votre règlement, il y a un administrateur. Donc, il est administrateur de la RISIT, il a le droit d'être là.
Oui, c'est correct. Oui, c'est lui
qui répond. La principale affaire là-dedans, c'est que la MRC fonctionne à peu près toujours de la même manière dans chaque comité. Les maires, des directeurs généraux à des places, ou des. Tu sais, par secteur. Fait qu'un maire, mettons un exemple le cœur, le maire, il est là. Sa directrice n'a pas le droit d'être là, c'est une directrice qui vient d'une autre municipalité. Fait qu'on a à peu près toujours le même sens de la manière de la formation des comités. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est de changer un peu la réglementation pour la CSI.
C'est pas une réglementation, c'est une résolution de la MRC.
L'idée générale, c'est qu'on fonctionne toujours à peu près de la même manière dans nos.
Avoir un équilibre dans la représentation et dans les visions de services du territoire. Donc, Alexandre?
Question, pourquoi spécifier un pompier, pourquoi qu'on ne dirait pas deux représentants de RISIT, dont un administrateur, puis le reste, bien, RISIT en virus. Oui,
mais...
Je veux dire, on voudrait le spécifier vraiment, parce que si tu demandais, c'est plus un pompier, ça revient au directeur, on va changer la résolution.
C'est
le pompier.
La question, c'est qu'il y a aussi des consultants qui sont, qui gravitent autour, notamment de la RISIT, et que c'est les consultants qui viennent sur nos comités. Et ce qu'on veut, c'est plutôt des gens qui sont les deux pieds sur le terrain, qui font le travail ici. Okay. Daniel?
On a modifié la représentation.
C'est Nico l'a proposé, tu l'appuies?
Oui, il l'appuie d'abord.
Ça ne dérange pas, non?
Non, ça ne dérange
pas. Ça, Daniel.
Allez, battez-vous pas, là, mais mettez de la
rate. Marque-toi pas qu'on éteigne un feu ici.
Est-ce que quelqu'un est contre la résolution? Alors, c'est adopté à l'unanimité.